midi, 13h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le grand déballage. Merci à vous toutes et tous d'être ici parmi nous présents. 12h-13h, au sommaire, ce matin à la mi-journée, vous le savez, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Je reviendrai sur cette annonce du Premier ministre. Pendant une heure, le Premier ministre a détaillé le plan du gouvernement pour lever progressivement le confinement à partir du 11 mai. On reviendra sur cette actualité tout à l'heure avec Madame la députée Nadia Hay, qui viendra nous préciser, évidemment, tous les petits éléments qui nous ont échappé. Ensuite, vous savez, nous allons nous intéresser aujourd'hui, vous savez, ce que je vous propose, eh bien, d'aller voir le Maghreb. Qu'est-ce qui s'y passe et comment on traite, vous savez, le coronavirus? Alors, d'une part, vous le savez, il y a des MRE, ce qu'on appelle des Marocains résidents à l'étranger, mais surtout des Marocains tout court, qui se sont retrouvés par centaines de milliers coincés ici en France, en plein Ramadan, dans les hôtels. On tâchera de comprendre, évidemment, avec Rachid Saïdi, qui, lui, est gestionnaire d'hôtel. Il sera avec nous dans une poignée de minutes pour comprendre avec lui. Et puis, tout à l'heure, en seconde partie de l'émission, vous savez, on ira direction l'Algérie, à Oran précisément, où on sera avec un professeur de renom, un professeur, donc, Madame Boufoc, le professeur Boufoc, qui sera avec nous en direct du CHU d'Oran, et on sera en plein dedans, dans les coulisses avec elle, dans la gestion du coronavirus, et on comprendra avec elle, évidemment, comment elle gère tout cela. Voilà le menu que je vous propose tout de suite, c'est parti, et c'est le grand déballage. Alors, et d'ailleurs, le standard reste ouvert pour vous au 01 53 48 3000. Je suis avec mon premier invité, il s'appelle Rachid Saïdi, il est gestionnaire d'hôtel, chef d'entreprise. Bonjour mon cher Rachid Saïdi.
Bonjour monsieur Adil Farkan.
Merci d'être avec nous ce matin, Rachid Saïdi. Alors vous êtes donc gestionnaire d'hôtel, vous gérez plusieurs hôtels en région parisienne, Paris et puis en Ile-de-France, et vous êtes aussi chef d'entreprise. Rachid Saïdi, vous avez été heurté à une gestion aujourd'hui un peu particulière dans le cadre de cette crise sanitaire. Vous vous êtes retrouvé avec un appel, un cri d'alarme. C'est celui des Marocains qui étaient en vacances en France. Et c'est vous allez nous préciser les chiffres, des centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées coincées. Et vous avez décidé vous-même de lancer en quelque sorte, de tendre la main. C'est ça?
C'est bien ça. Donc, comme vous le savez, après cette crise sanitaire a des effets dévastatrices à tous les niveaux. À chaque niveau compte, des milliers de Marocains étaient coincés à l'étranger, au Maroc, depuis la suspension des liaisons aériennes depuis et vers le Maroc. Donc il y avait des appels d'aide avec des lettres aux plus hautes autorités de notre pays, les campagnes sur des réseaux sociaux se multiplient. On compte, d'après les sources, comme il l'indique les autorités marocaines, entre 4000 et 5000 Marocains en France et presque 23 000 Marocains bloqués à l'étranger dans le monde.
Alors c'est là où ça m'intéresse. Vous êtes directeur d'exploitation du groupe Hôtel Monsieur à Paris. Donc c'est un groupe qui est connu. Et vous avez décidé vous-même, avec votre groupe, alors comment, justement, dans cette crise sanitaire qui a eu, vous le dites vous-même, à des effets dévastateurs, vous avez dit que c'est des milliers de Marocains qui se retrouvaient bloqués à l'étranger. Alors cet appel à l'aide, c'est quoi? Vous pouvez nous préciser des chiffres, nous donner des éléments?
Alors, donc, après l'heure de trêve grandie en ce mois de Ramadan, ils sont séparés de leur famille. Et il faut savoir qu'ils ne sont pas tous logés à une enseigne. Quelques Marocains sont hébergés dans des hôtels, 4 étoiles à Paris, en pension complète, mais pas avec une nourriture comme ils le souhaitent avoir comme un ftour en plein Ramadan. On estime plus de centaines de personnes logées dans des hôtels et d'autres dans des appartements en région parisienne. Selon l'information d'un haut placé à l'ambassade du Maroc, toutes les personnes demandant de l'aide l'ont eu, hospitalisation, ordonnance, médicaments, logement, des bons d'achat pour acheter leur nourriture, des enterrements dans des carrés musulmans au cimetière. Franchement, on leur tire leur chapeau, en commençant par notre ambassadeur, M. Shakib Ben Moussa. Je parle aussi de M. Bandourou Saad, je parle de Saïd, de Souad, et désolé si j'ai oublié d'autres. Nous, on a un groupe hôtelier parisien, et on a commencé dans un premier temps de recenser les gens qui n'avaient pas de logement et qui n'avaient qui n'étaient pas déjà inscrits par dans les ambassades et les consulats marocains. Donc on a décidé avec notre groupe déjà d'apporter une aide de logement, mais comme nous n'avons pas des cuisines pour leur préparer la nourriture, donc on a fait appel à d'autres moyens.
Vous recevez combien de Marocains précisément qui se sont retrouvés en plein confinement dans Paris, dans vos hôtels justement, vous en tant que qualité de directeur d'exploitation de ces hôtels parisiens?
Juste pour vous préciser, donc il n'y a pas que des Marocains qui étaient en tourisme ou en déplacement vis-à-vis de leur famille à l'étranger. Il y a aussi une détresse des étudiants marocains qui sont en grande partie laissés un petit peu à l'abandon. Ce sont des jeunes avec des ressources moindres, car peu de travail, donc des problèmes financiers pour payer leur loyer, leur nourriture, leurs besoins. Nous, on a reçu une vingtaine, voire une trentaine de personnes dans un premier temps. Parce que, comme vous le savez, dans notre groupe, on est penché sur une hôtellerie un petit peu, hôtellerie privée, hôtellerie boutique, avec une vingtaine, trentaine, à quarantaine de chambres. Donc, dans un premier temps, on a ouvert le premier hôtel pour les accueillir, et on attend un petit peu avec le flux, parce que la plupart du temps, ils cherchent plus un soutien financier, il y a un soutien moral, il y a un soutien médical. Et comme ils sont la plupart du temps hébergés par leur famille.
Vous m'avez dit alors, Rachid Saïdi, que vous estimez une centaine de personnes qui sont logées dans vos hôtels et dans des appartements parisiens. Mais alors, précisément, est-ce que, évidemment, on est en plein confinement, il y a les règles aussi sanitaires qu'on connaît. Vos hôtels, vous avez dû vous adapter, vous avez dû aussi revoir un petit peu votre fonctionnement avec les barrières de distanciation, vous en avez parlé avec justement vos clients qui se sont retrouvés coincés, vos clients marocains qui se sont retrouvés coincés dans vos hôtels?
Juste pour vous dire, déjà, ce ne sont pas des clients marocains qui étaient bloqués chez nous. Donc, c'est des Marocains qui sont venus après déjà la fermeture de l'établissement. Nous, on a décidé de fermer l'établissement pendant...
Effectivement, vous avez raison. Ceux que vous hébergez.
Exactement. Donc, nous, on a déjà prévu les mesures de sécurité depuis le 10 mars. Donc, on a des barrières de sécurité à ne pas dépasser 1 mètre à 2 mètres entre chaque personne. Il y a des gels hydrauliques dans tous les coins de l'hôtel. Vous avez un nettoyage approfondi par la femme de chambre avec des normes strictes pour la sécurité sanitaire. Même si ce sont des Marocains qui étaient logés et gratuitement, je le précise, c'est gratuitement dans l'établissement. Bien sûr, et ces respects de distance sanitaire et cette distance sociale est respectée par eux-mêmes.
Rachid Zaidi, ces étudiants que vous hébergez, marocains, ces marocains justement qui se sont retrouvés coincés, on a bien compris que vous avez décidé avec vos hôtels de les héberger. Aujourd'hui, ils sont dans quelle situation? Vous nous avez, même si j'ai bien compris, en situation de détresse, mais est-ce qu'ils ont les ressources suffisantes financières pour subvenir, par exemple, à leurs besoins avec leur famille, leurs enfants? Comment ça se passe? Nous, on aimerait savoir.
Tout ce qui est aide financière, donc on a fait un petit peu appel à nos propres moyens. Il y a des gens qui ont leurs propres moyens. Le Maroc a décidé d'ouvrir une dotation de 20 000 dirhams supplémentaires, c'est l'équivalent de 2 000 euros pour les rapatriés du Maroc. Mais par contre, tout le monde n'est pas logé dans la même enceinte. Donc vous avez des personnes qui sont dans une détresse, qui sont venues étudier pour une mission de travail de 3 jours. Et elles sont retrouvées bloquées en France. Donc on essaie de les aider avec notre propre moyen. Mais par contre, je néglige pas l'effort extraordinaire qui est fait par les ambassades et les consulats au Maroc, surtout ceux de Paris, du Villemomble, de Colombes, même si j'ai des retours un petit peu négatifs concernant Pontoise, mais la plupart des consulats, ils ont fait leur travail bien comme il le faut.
Vous sentez une détresse psychologique, par exemple, physique, chez ceux et celles que vous hébergez, justement, parce que j'imagine que ce n'est pas simple pour elles, pour ces personnes, justement, de se retrouver confinées, comme ça, coincées, et détachées de leur famille, parfois.
Bien sûr, pour vous dire, déjà, il y a des gens qui sont déjà hébergés dans des hôtels. Donc ça, déjà, il y a une aide déjà qui est considérable. Il reste toujours cette problématique de personnes qui sont un petit peu fragiles. Juste pour vous dire, il y a des gens qui ont même j'ai décidé à passer à une étape supérieure, d'aller jusqu'au suicide. J'attire votre attention parce que j'ai entendu une souffrance des chauffeurs, des poids lourds, oui, qui dorment dans leur cabine de leur camion. Ils ne doivent pas quitter leur camion de peur de se faire voler leurs marchandises des clients. J'ai même été étonné d'entendre et de voir des témoignages de Marocains, écoutez-moi bien, d'Agadir, Tanger, Nimlal, qui étaient coincés à Rabat et à Casablanca pour des raisons médicales et qui ne peuvent pas retourner voir leur famille malgré leurs demandes effectuées auprès des wilayas. Donc, si des Marocains qui sont bloqués dans des villes marocaines, comment peuvent-ils rapidement, pour nos frères et sœurs à l'étranger, de part et d'autre, et il y a aussi nos frères et sœurs qui sont bloqués à Ceuta, à Melilla, qui sont à quelques petits kilomètres de leur famille, et pourtant impossible de rejoindre et de passer le ramadan en famille. J'entends aussi des témoignages qui viennent d'Asie, d'Afrique, des Amériques, et surtout la Turquie qui souffre le martyr. Donc il y a beaucoup de cas de détresse psychologique, physique, financière, et j'en passe, tous nos compatriotes dans le monde entier, surtout en ce mois de ramadan, séparés de leur famille et voyant leurs ressources s'amoindrir. Il faut agir de tous les côtés et vite et en urgence.
Alors, on l'aura compris, effectivement, il y a un cri d'alarme, Rachid Saïdi. Je veux juste m'arrêter, vous savez, sur ceux que vous avez hébergés dans vos hôtels parisiens. Comment ça se passe pour celles et ceux qui vivent le ramadan et comment ça se passe surtout cette rupture de jeûne du ramadan? Parce que j'imagine, est-ce que par exemple, je vous pose la question, une chaîne alimentaire s'est créée par exemple pour venir à leur aide?
Exactement. Donc nous avons créé déjà plusieurs groupes WhatsApp pour un petit peu synchroniser les aides partout sur Paris, la région parisienne, parce que nous déjà on habite sur Paris, la région parisienne. Et à travers les grandes villes de France aussi, donc ça commence à s'agrandir depuis le 18 mars. Jusque maintenant, on est déjà à 45 jours ou 50 jours après les fermetures des liaisons aériennes. Donc des grandes villes en France aussi, au même au Maroc et en Italie. Et je remercie Hakim de Lyon, Rachid de Marseille, Adil, Sarah, Karim, qui ont prouvé l'immense solidarité des Émireux vers leurs frères et sœurs marocaines. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et des amis comme Sana et son mari Khaled et sa famille qui nous fournissent des repas malgré quelques problèmes de gestion parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre d'aide. Et juste pour vous dire, Sana qui a une maman qui est bloquée aussi et sa maman participe aussi à nous préparer tout ce qui est harira et des produits alimentaires orientaux dignes d'un ftor marocain.
Dites-moi Rachid Saïdi, je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes retrouvé à gérer par exemple des malades, des gens, ceux que vous hébergez, qui se sont retrouvés positifs du coronavirus par exemple?
Je peux vous dire même une petite anecdote, à sûrement ne pas oublier, il y a même une femme à accoucher de deux jumelles pendant le confinement. Et il a été pris en charge déjà par tous les Marocains qui l'entourent dans l'hôtel. Je peux vous dire même qu'il a eu déjà sa première fille qui était avec elle à l'hôtel et la deuxième fille est restée à l'hôtel. Donc oui. je tire déjà mon chapeau à un chauffeur. Pour vous dire, un chauffeur normalement qui était en chômage partiel, qui s'appelle Abdesamad, et qui est chauffeur marocain et que je remercie également pour sa participation. C'est lui qui la ramène chaque jour, un aller-retour le matin et un aller-retour le soir, pour rejoindre sa deuxième fille qui est restée...
Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, rassurez-nous, elle n'était pas atteinte du coronavirus.
Non, il y a personne, pour vous dire déjà, il n'y a personne qui est atteint, alhamdoulilah, de coronavirus. Et juste pour vous dire...
En tout cas, si elle a accouché et que tout s'est bien déroulé, écoutez, c'est une très bonne chose. Rapidement, parce qu'on doit remarquer une page pub et on arrive au terme de cette interview, Rachid Saïdi. Vous, monsieur le directeur, justement, d'exploitation des groupes des hôtels de Paris, monsieur. Alors, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Pour moi, déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'impliquent avec moi pour aider, loger, nourrir tous les jours ces personnes loin de leurs proches. Je leur souhaite un bon ramadan Et je demande qu'Allah et à notre roi, surtout à notre roi, que nos frères rentrent le plus rapidement possible, parce qu'ils ont déjà fait tout, ils ont déjà exploité tous les moyens pour attirer l'attention, soit au niveau média locaux, soit au niveau de, des sphères politiques marocaines. Et je tiens à remercier notre groupe, le groupe, je peux vous le dire, c'est le groupe Hôtel Monsieur, dont aussi l'Hôtel Monsieur Georges, qui fournit chaque jour aussi des repas à, au personnel médical. Je remercie l'Hôtel Monsieur Cadet, Monsieur Elder, Monsieur Saint-Ange, l'Hôtel Albert, l'Hôtel Académie des Arts, qui sont mobilisés pendant cette période-là pour, un soutien des plus démunis pendant cette crise.
Merci. Merci Rachid Saïdi. Je le rappelle, vous êtes le directeur d'exploitation du groupe Hôtel Monsieur à Paris. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Et évidemment, j'espère que votre message est passé pour rapatrier évidemment celles et ceux que vous hébergez aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve dans une poignée de minutes avec la députée Nadia Hay. Et avec elle, on va comprendre ce déconfinement, ce qu'il faut retenir, surtout du plan présenté par Edouard Philippe. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 12h20 précisément dans le grand déballage. Si vous venez de le retrouver, sachez-le, on va s'intéresser à ce qui s'est dit hier, l'annonce du Premier ministre avec le déconfinement. Comment cela va s'organiser avec notre invitée Nadia Hay, justement, qui sera avec nous dans quelques secondes. Et puis tout à l'heure, en toute dernière ligne droite, je vous le dis, on sera en direct aussi, notamment, comme on l'a été donc pour le Maroc et aussi pour l'Algérie. Nous allons nous intéresser à la gestion du coronavirus avec le professeur Nadjet Moufok tout à l'heure. Alors, je vais accueillir Madame la députée Nadia Hay. Bonjour Nadia Hay, bonjour Madame la députée.
Bonjour Adil Farkan.
Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment vous vous portez ?
Bah écoutez, bien, compte tenu des circonstances, ça va. Et vous, ça va ?
Bon. Écoutez, nous, on se porte bien, évidemment, on respecte le confinement et j'aimerais savoir avec vous, Madame la députée, vous êtes la députée donc de la majorité. Alors, que faut-il retenir finalement du plan présenté par Edouard Philippe ? Pendant plus d'une heure, le Premier ministre, hier, il a enfin détaillé ce fameux plan du gouvernement pour lever progressivement le confinement à partir du 11 mai. Alors, j'ai envie de vous dire, Madame la députée, il y a, je crois, environ un peu plus ou 12 propositions. Qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Alors, ce qu'il faut retenir, tout d'abord, c'est déjà le constat qui est de dire que le confinement a été plutôt efficace et avec une diminution du nombre de personnes prises en charge par les établissements de santé. Donc, ça a été un instrument efficace et je tiens là à remercier toutes celles et ceux qui ont respecté ce confinement. C'est une chose qui n'était pas facile à vivre, qui n'est pas facile à vivre, mais nous la vivons tous. D'ailleurs, moi-même, je suis confinée chez moi depuis le mois de mars. Mais en tout cas, il s'est révélé efficace grâce à l'action de toutes et tous. Donc ça, c'est un point important, je pense, et il faut le souligner. Maintenant, c'est un virus avec lequel on va devoir vivre. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Il est encore là, il circule encore. Donc, il va falloir vivre avec. Mais on ne peut pas aujourd'hui continuer ce confinement au risque d'entraîner des conséquences très, très graves pour le pays. Et donc, il faut le lever progressivement. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit et il a insisté sur le mot « progressif ». Parce que ça va se faire petit à petit, on ne va pas lever toutes les mesures prises pendant le confinement le 11 mai. Tout va se faire de manière progressive, que ce soit l'organisation de la vie des Français, donc les déplacements, le travail, mais aussi la différenciation territoriale, c'est-à-dire que les mesures qui sont prises en Île-de-France ne seront pas du tout les mêmes que les régions Occitanie ou PACA. Donc c'est vrai que les choses vont se faire aussi avec une différenciation.
Donc Madame la députée, je l'ai bien compris, on l'aura bien compris, une grande prudence sur la date du 11 mai alors. Ce qui ne veut pas dire que peut-être il y a un risque justement de se reconfiner, d'être reconfiné si jamais ça repart.
Oui, bien sûr, très très grande prudence sur la date du 11 mai. D'ailleurs, cela ne se fera que si les indicateurs sur lesquels se sont basés aujourd'hui le gouvernement, donc des indicateurs transmis par les scientifiques, seulement sur la base de ces indicateurs au vert, on procédera ou non au déconfinement selon les modalités dont a présenté hier le Premier ministre, qui ont été présentées par le Premier ministre. Donc,
justement, on va s'intéresser à cela, Madame la députée. On reparle de ce retour progressif à l'école et au collège. Alors, le Premier ministre, on l'aura compris, l'a présenté le calendrier de réouverture des établissements scolaires. Alors, dites-moi, aujourd'hui, vous savez, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans la majorité des parents d'élèves et des parents tout court, et qui se posent la question, franchement, je vous le dis, Madame la députée, ils se posent la question à savoir, doivent-ils tout simplement emmener leurs enfants le 11 mai à l'école? C'est une question qui est dans les esprits aujourd'hui, qui est légitime.
Oui, c'est une question qui est légitime. Je dois aussi vous avouer que j'ai deux enfants. J'ai un enfant au collège en sixième qui sera concerné par un retour à l'école le 18 mai, puisque je vous disais tout à l'heure, le déconfinement se fera vraiment de manière progressive et en fonction du niveau dans lequel se situe l'enfant, eh bien, il y aura des dates qui seront échelonnées. Et c'est une question qu'on se pose, évidemment. Et la crainte, elle est partout, elle est dans toutes les familles. Et elle est parfaitement compréhensible. Et c'est pourquoi ce retour à l'école ne se fera que sur la base du volontariat. C'est-à-dire si les familles sont disposées à envoyer leurs enfants à l'école. Et si elles sont volontaires à le faire ou parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que elles doivent reprendre le travail, et si vous voulez, on pourra dire un mot sur les modalités de déconfinement pour le travail, mais si elles n'ont pas le choix, elles doivent mettre leurs enfants à l'école, il faut savoir que toutes les mesures de sécurité seront prises pour que l'enfant soit dans des meilleures conditions sanitaires. D'ailleurs, il l'a dit, ça sera un maximum de 15 enfants par classe. Sur les crèches, ça sera 10 enfants maximum dans un lieu, une salle où, tout dépend de la configuration de la crèche, mais en tout cas, c'est 10 enfants pris en charge au maximum. Donc, il y a des mesures qui sont prises. D'ailleurs, toute l'administration de l'éducation nationale travaille avec les services de l'État, donc les préfets dans les différents départements, mais également avec les ministères de la Santé ou les agences régionales de santé pour maximiser, encore une fois, les conditions de sécurité sanitaire. Et sur ça, on ne fera, mais alors, on ne laissera absolument rien passer. Donc voilà.
Alors justement, on a bien compris, Madame la députée. Le Premier ministre il dit qu'il est préférable de porter le masque. Est-ce que les élèves doivent porter le masque en allant justement à l'école?
Alors au collège, ça sera obligatoire. Au collège, le masque sera obligatoire. Sur les niveaux en dessous, donc la maternelle et élémentaire, il n'y a pas d'obligation de porter le masque, voire même ce n'est pas recommandé. Parce que les élèves, les enfants ne savent pas se servir du masque. Il peut être beaucoup plus dangereux qu'autre chose. Ils peuvent jouer avec le masque, ils peuvent le mettre dans la bouche, le manipuler puis se mettre la main dans la bouche. Donc c'est beaucoup plus dangereux qu'autre chose. Maintenant, pour ces enfants-là, il y aura évidemment toutes les mesures barrières nécessaires pour que justement les mesures de sécurité soient respectées. On ne fera pas d'impair là-dessus. Ça, il faut que vraiment tout le monde en soit certain et assuré à ce niveau-là.
Alors, on va parler, vous savez, aussi d'un sujet qui concerne aussi nos auditeurs. C'est le télétravail pour les entreprises, mais c'est également cette levée progressive pour les commerces. Alors, tous les commerces, sauf les cafés et restaurants, pourront rouvrir, si j'ai bien compris. Vous nous le confirmez?
Oui, tous les commerces, sauf les cafés et les restaurants, donc à partir du 11 mai, encore une fois, à condition que on puisse faire respecter les gestes barrières. Parce que si les maires et les préfets s'opposent à l'ouverture de tel café ou de tel restaurant, ou même de tous les cafés et restaurants de leur périmètre, on rompt cette possibilité de le faire. C'est pourquoi ce déconfinement sera travaillé. Là, le Premier ministre a affiché les grandes lignes, mais dans le détail du déconfinement, ça sera ajusté en fonction des territoires, je le disais, mais aussi et surtout avec les services de l'État, donc les préfets, évidemment avec les élus des territoires, donc les maires auront un grand rôle à jouer, mais également avec toutes les différentes représentations, organisations patronales, les syndicats et autres. Donc les discussions ont été entamées, évidemment, elles continuent. Mais si le maire ou le préfet estime que les gestes barrières ne peuvent pas être respectés dans tel café, oui, dans tel restaurant, sur tout le territoire, ils ne seront pas ouverts.
Dites-moi, Madame la députée Nadia Hay, pour le télétravail pour les entreprises. Alors, Édouard Philippe, lui, il a demandé avec beaucoup d'assistance hein, aux entreprises de maintenir le télétravail autant que possible. Mais alors, comment ça se passe pour le chômage partiel? Est-ce qu'il peut s'étaler dans la durée jusqu'au mois fin juin, juillet, août, septembre?
Alors, le chômage partiel perdurera après la date, après le, enfin, au mois de juin, mais avec une réduction de, la prise en, de sa prise en charge. La ministre Mireille Pénicaud s'est prononcée sur cette question-là. Mais évidemment que les entreprises aujourd'hui sont encouragées à maintenir le télétravail partout où il est possible, même après le 11 mai. Partout où une entreprise peut mettre en place le télétravail, il faut qu'elle le fasse. Ça marche bien, les résultats sont plutôt bons pour, sur celles qui ont pu le mettre en place, donc il faut le maintenir. Maintenant, pour toutes celles qui ne peuvent pas le maintenir, il faut évidemment que toutes les mesures, encore une fois, de sécurité, les mesures sanitaires, donc les gestes barrières, puissent être en place. Pour les entreprises où il y a une possibilité aussi de mettre des horaires décalés, on incite vivement à le faire pour que justement ça se régule aussi dans les transports. Donc il y a un guide et des fiches métiers qui a été édité par le ministère du Travail. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site du ministère du Travail et aller consulter la fiche métier qui lui est propre, parce que là il y a toutes les conditions et toutes les informations qui se rapportent au métier que l'on exerce.
Alors, un sujet, évidemment, sur lequel il s'est étalé, le Premier ministre, c'est le port obligatoire du masque. Porter un masque dans les transports publics, dans les grandes surfaces, bref, il devient obligatoire.
Il devient obligatoire, effectivement, dans les transports. Puisque, avec encore une fois le Premier ministre qui a insisté sur le fait de pouvoir mettre en place les mesures de distanciation dans les transports, avec une place sur deux, gérer l'entrée dans tel wagon, enfin voilà. Donc il y a aussi là toute la question de la régulation.
Même si on sait, Madame la députée, que évidemment dans le métro parisien par exemple, ce sera drastiquement à réduire cette capacité justement normale, pour limiter la contamination, justement, dans les transports publics.
Exactement, oui, il y aura une régulation du trafic dans le métro, ça c'est une certitude. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, après le 11 mai, ça s'appliquera en tout cas de cette manière-là, avec le port du masque obligatoire, et c'est pourquoi on insiste vraiment auprès des entreprises pour qu'elles puissent mettre des horaires décalés. Si c'est possible de mettre en place des horaires décalés dans la continuité de son service, eh bien nous incitons à le faire pour justement aussi réguler cette question du transport. Mais une chose est sûre, c'est qu'après le 11 mai, tout ne se réglera pas. Il y aura encore une difficulté de se déplacer et particulièrement dans les transports. Même si effectivement, on pourra circuler dans un rayon de 100 km sans cette autorisation-là, donc on pourra se déplacer à pied, à vélo ou en voiture. Mais au-delà de 100 km, nous maintenons l'autorisation de déplacement. Mais le déplacement dans ce rayon-là se fera effectivement en voiture, à vélo, à pied, mais également en transport. Mais le transport devra être géré selon les conditions que des gestes de barrière et de mesures de distanciation. Le 11 mai ne sera pas une date du règlement de tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, malheureusement.
Ce sera, Madame la députée, ce sera ma dernière question. Qu'en est-il des lieux de culte aujourd'hui à partir du 11 mai?
Alors, les lieux de culte pourront ouvrir, mais jusqu'au 2 juin, il n'est pas possible d'organiser des événements. Je sais que bon nombre de vos auditeurs sont musulmans, donc la prière du soir ne sera toujours pas autorisée. Après le 11 mai, il faudra effectivement attendre le 11 juin, parce que les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées. Mais les lieux de culte pourront ouvrir et des prières peuvent se tenir, mais à condition qu'il y ait des mesures de distanciation qui soient respectées. Les responsables des cultes sont bien informés des conditions d'ouverture des lieux de culte. Je ne doute pas une seule seconde qu'ils transmettront à ceux qui exercent les religions, donc à leur transmettre les modalités. Mais oui, les lieux de culte pourront ouvrir, mais aucun événement avant le 2 juin ne pourra y être organisé.
Merci Madame la députée, merci Nadia Hay d'avoir été avec nous dans le grand déballage. Ici même pour donc nous expliquer, nous décrypter donc ce qu'il faut retenir de ce plan de déconfinement, et on suivra ça, on est obligé de toute façon et on regardera ça avec beaucoup d'attention jusqu'au 11 mai, avec l'arrivée du 11 mai. Merci Madame la députée.
Merci à vous, à bientôt Adil Farkan.
Merci, à très bientôt, 12h34, et on va marquer une pause pub et on se retrouve tout de suite après, et bien direction Oran, l'Algérie, où on va s'intéresser, vous savez, à la gestion du coronavirus avec le professeur Nadjet Moufok. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Bonjour à tous, à celles et ceux qui viennent de nous retrouver, dernière ligne droite, ici même, dans le grand déballage, vous le savez, vous êtes avec nous et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de 12h à 13h, et je vous en remercie infiniment. Restez chez vous, vous savez, c'est le mot, restez chez vous, c'est comme ça qu'on y arrivera, d'ailleurs, tous, à convaincre cette pandémie. Alors, direction, je vous le disais en tout début d'émission, direction l'Algérie, avec le professeur Moufok. Elle est avec nous, elle est au CHU d'Oran. Bonjour professeur Nadjet Moufok.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je le rappelle à nos auditeurs. Merci. Vous êtes chef de service infectiologie donc au CHU d'Oran. Vous êtes donc en direct avec nous depuis l'hôpital. Je vais juste rappeler, faire un peu le factuel donc du coronavirus et la situation en Algérie. 3649 cas confirmés, 1651 guérisons et 437 décès. Les villes qui ont connu un pic, donc c'est Blida, Alger, Oran, Sétif, Tipaza, Béjaïa un peu, Tizi Ouzou également un peu. Bref, avec vous, madame la professeure, j'aimerais voir aujourd'hui comment ça se déroule au CHE d'Oran, comment vous avez géré cette crise du coronavirus.
Nous étions déjà prêts depuis l'épidémie a commencé en Chine. On était préparés parce qu'on est infectiologue. Et du coup, on est toujours prêt à affronter des épidémies. Donc, les formations ont commencé bien avant. Et donc, toute l'équipe était prête à assurer les tâches face à l'épidémie. Donc, nous sommes un groupe de médecins, d'infirmiers et plein d'agents autour. Et donc, quand on reçoit les patients, ils sont diagnostiqués, pris en charge rapidement. Et voilà, la situation n'est pas aussi dramatique que l'Europe, ça c'est clair.
C'est lié à quoi d'ailleurs ? On aimerait comprendre. Est-ce que vous avez une explication, vous qui êtes chef de service infectiologie ? Est-ce qu'on a une explication ? Est-ce que c'est parce que vous êtes arrivé suffisamment tôt ?
Peut-être parce qu'on était prêts et puis on a profité de l'expérience des autres avant nous. Et puis les gens sont très sensibilisés aux moindres signes, ils viennent rapidement pour être soignés. L'ampleur du problème n'est pas aussi importante que l'Europe, donc on a peu de cas par rapport à ailleurs. Et puis nous, dès qu'on reçoit le patient, nous avons quand même essayé le protocole de Raoult, qui a été ordonné par le ministère de la Santé.
Parlons-en, professeur Nadjet Moufok. Vous, alors, on sait très bien que dans les pays du Maghreb et en Algérie, vous, le professeur Raoult, tout de suite, vous l'avez préconisé. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que vous avez prescrit justement ce médicament, la chloroquine, à vos patients qui étaient atteints du coronavirus.
On a prescrit pour tous les patients pratiquement de la chloroquine et de l'azithromycine. Et comme par hasard, les patients évoluent bien. Donc nous avons presque très très peu de patients en réanimation. Et les malades, même les malades graves qui viennent au stade très avancé de détresse, de sepsis, quand ils prennent le traitement, généralement, ils évoluent tous bien et j'ai beaucoup de sortants. Alors, maintenant,
vous êtes en train de me dire, professeur Moufok, que le traitement de Raoult a été efficace?
Probablement, ce qu'on constate. Mais je ne sais pas, peut-être soit l'évolution naturelle ou peut-être c'est vraiment le traitement. Hein. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'évolution de ces malades est satisfaisante.
Alors, satisfaisante, voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, donc vous nous confirmez que vous, pour vous, les résultats étaient plutôt satisfaisants, positifs, donc concernant ces traitements qu'avait préconisé le professeur Raoult. Du tout, tout chez vous, ça n'a pas eu, il n'y a pas eu lieu de polémique, justement.
Ça marche très bien. Comme par hasard, ça marche très bien. Le traitement, il marche très bien. Voilà.
En tout cas, chez vos patients qui étaient atteints du coronavirus, cela a fonctionné et vous n'avez pas eu de conséquences, évidemment, et de retours concernant, par exemple, le problème cardiaque, comme on l'a pu entendre ici, par exemple, en France.
Oui, c'est ça. Parce que moi, je ne comprends pas aussi, la chloroquine, elle est utilisée chez nous pour les maladies du système, les lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Mais beaucoup de femmes prennent ce traitement-là à long terme. Mais ils n'ont jamais parlé de problèmes cardiaques ou d'autres. C'est vrai, c'est décrit. Les problèmes cardiaques, il faut faire des ECG répétés. En cas de problème, voilà ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont jamais dramatisé comme ça. Moi, je ne comprends pas cette polémique autour de la chloroquine, franchement. C'est vrai, c'est un anti-malarique. Son effet sur l'immunité, il est déjà confirmé. Mais je ne savais pas qu'il avait vraiment un effet sur un virus. Voilà, mais sur le plan clinique, moi, je ne fais pas de labo, je suis clinicienne. Mais sur le plan clinique, nous avons remarqué que les patients même graves répondaient sous traitement association chloroquine et azithromycine. Donc, il y a un macrolide qui est associé à un antibiotique. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet de la chloroquine ou l'effet de l'azithromycine, mais en tout cas, l'association, elle a donné de très, très bons résultats. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai 138 patients que j'ai pris en charge, confirmés. J'ai eu 66 guéris et sortis. Pour les cas graves, j'en ai eu quand même un grand paquet de cas graves qui étaient diabétiques, hypertendus, cardiaques, des pontages. Vraiment, c'est une patient qui est très compliquée avec détresse respiratoire. Et progressivement, elle commençait à s'améliorer sous traitement. Donc, pour les décès, pratiquement, j'ai eu trois au début. C'était des malades que j'ai pas le temps vraiment de traiter parce qu'ils sont venus au début et ils sont venus déjà dans un stade très très avancé et ils sont décédés dans les premiers jours, les deux jours qui suivaient l'hospitalisation. Mais pour les autres, tous, même graves, ils ont très bien évolué et on est content, quoi. On est très content.
Donc, effectivement, on a bien compris que vous étiez satisfaisant, et tant mieux, c'est satisfaisant donc auprès de vos patients qui étaient atteints du coronavirus. Professeur Nadjet Moufok, j'imagine que vous, en tant que chef de service infectiologie au CHU d'Oran, vous avez dû, depuis cette période, depuis le début d'ailleurs de cette pandémie, vous avez dû vous organiser différemment. L'hôpital s'est organisé différemment. Vous avez dû aussi peut-être revoir le dispositif de l'hôpital.
Eh bien oui, on s'est organisé, nous avons eu plus de moyens, c'est-à-dire on a revu notre radio mobile dans le service, on a eu plusieurs ECG, des respirateurs, des aspirateurs, enfin, on a vraiment équipé le service dans tous les sens. On a aussi fait un réseau de consultation, de cheminement des patients, donc pour savoir vraiment comment les orienter. Et nous avons fait aussi un système d'organisation de la garde. Donc il y a pratiquement 5 personnes de médecins qui assurent la garde de façon continue 24 heures, qui sont renouvelées chaque jour. La même chose pour le personnel paramédical. Donc on fait plus de corona que d'autres activités. Par exemple, nous avons beaucoup de VIH, donc nous avons fait un autre circuit VIH, et l'autre pathologie infectieuse aussi un autre circuit. Mais il y a tout un système de garde qui s'occupe que de l'activité Covid-19.
Donc j'imagine que l'hôpital a dû faire face à cette pandémie justement et vous êtes réorganisé.
Oui. Nous vivons actuellement une situation un peu différente du quotidien. Même dans la vie privée, le personnel, généralement quand ils sortent du service, ils vont à l'hôtel, donc ils sont confinés, donc ils ne vont pas chez eux. Le temps de l'épidémie, voilà.
Est-ce qu'il y a par exemple suffisamment de lits dans votre hôpital?
Eh bien oui, Il y a suffisamment de lits pour l'instant. Nous avons ouvert une autre structure qui était chirurgie, qu'on a vidée. On met les patients qui commencent à bien aller. Par exemple, chez moi, dans le service de maladie infectieuse, on hospitalise le premier jour, on évalue, on commence le traitement. Dès que ça va bien, ils sont orientés vers le service où on met les malades pour le suivi. Donc, c'est des malades qui n'ont pas besoin vraiment d'une surveillance étroite. Ils prennent des comprimés. Il y a un médecin, un infirmier qui les surveille. Mais généralement, ils ne posent pas de problème jusqu'à la fin. Donc, à la fin du traitement,
on fait des... Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple, quand on pense aux respirateurs?
Eh bien, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas de problème de respirateur parce qu'on a, on a préparé toute une unité COVID-réanimation. On a mis 9 lits de réanimation et pratiquement, sans presque vide. Actuellement, j'ai un seul malade qui est hospitalisé en réanimation, mais en fait, c'est un malade qui n'a pas besoin de réa, mais il m'a fait une fibrose pulmonaire. Il va très bien sur tous les plans, sauf qu'il m'a fait une fibrose pulmonaire, il devient oxygénodépendant. Et du coup, il est sous oxygène dans le service de réanimation COVID, mais il n'y a pas de malade de réa en ce moment. Mais on n'a pas de problème de lit.
Front depuis le début de cette...
Oui.
Vous êtes au front depuis le début de cette pandémie, j'imagine. Vous êtes sans cesse, comment dirais-je, d'arrache-pied auprès donc de vos patients. Quel est le bilan aujourd'hui et quel est le constat aujourd'hui? Qu'en est-il? Quel est l'état aujourd'hui?
Eh bien, je dirais que l'épidémie elle est stable. Donc, elle n'a pas beaucoup augmenté, elle n'a pas baissé. Je dirais qu'elle est stable. Mais on ne sait pas ce qui va nous réserver l'avenir parce que il y a un déconfinement discret qui s'est ouvert ces derniers temps. J'ai peur de la promiscuité, des marchés qui sont ouverts, etc. Avec le ramadan, les gens sont au marché pour acheter, voilà. Et moi, on a peur dans une semaine qu'est-ce qui va se passer, mais franchement, je ne sais pas. On ne peut pas prédire l'avenir.
Il y a cette crainte et en même temps, vous continuez à sensibiliser la population. Mais j'ai bien compris.
On continue. On leur dit
distanciation.
Voilà, on leur dit de rester chez eux. Enfin, même s'ils veulent sortir, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas sortir, parce que ne serait-ce que pour faire leurs courses. Lorsqu'ils sortent, c'est lorsqu'ils vraiment ils ont besoin. Et toujours avec les masques, ils se lavent les mains. Et il faut qu'ils évitent les foules, voilà. La promiscuité, c'est pas bon. C'est ce qu'on leur dit, mais on craint un peu la semaine d'après, la semaine prochaine.
Dans la ville d'Oran et partout en Algérie, vous préconisez le port du masque. Est-ce qu'il est devenu obligatoire, par exemple?
Pas obligatoire, mais conseillé.
Conseillé,
oui.
Professeur Nadjet Moufa, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos patients?
Aux patients, à la population.
Les deux, aux patients et à la population.
Eh ben, les patients, moi, je leur souhaite qu'ils guérissent totalement. Et puis, quand ils sortent, ils restent encore 14 jours confinés chez eux avec tous les moyens de protection. Et après, tant que l'épidémie, elle est là, ils continuent à porter des masques devant des tierces personnes. Ils continuent l'hygiène, lavage des mains, le lavage de tout ce qu'ils leur ramènent à la maison, comme marchandises, etc. Il faut bien laver. L'hygiène, et voilà. Tout ce qu'on demande, et pour la population générale, je leur demande de sortir quand c'est vraiment nécessaire. Et quand ils sortent, il ne faut pas qu'ils se rapprochent trop de gens. Quand il y a la foule, ils les évitent. Se laver les mains et portage du masque obligatoire pratiquement quand ils sont en contact avec des tierces personnes. Voilà ce qu'on demande.
Ce sera ma dernière question, professeur Nadjet Moufok. Je le rappelle, vous êtes au CHU donc d'Oran, en Algérie. Est-ce que vous avez dû faire appel à du renfort, notamment à d'autres confrères, consoeurs? Est-ce que vous avez fait un appel aussi pour venir renforcer votre hôpital?
Oui, avec la direction générale de l'hôpital, avec la direction de la santé de Wilaya, du département. Oui, mais tout ce que j'ai demandé, franchement, je l'ai eu. Pour l'instant, aujourd'hui,
toutes les demandes aujourd'hui ont été acceptées.
J'ai l'ambulance à ma disposition au cas où. J'ai la radio, j'ai le CG, j'ai les écoucœurs, j'ai l'échographie. On m'a fait un laboratoire spécial Covid. J'ai l'arrêt à côté avec les 9 lits. Pour l'instant, je dis, j'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Tout le monde est mobilisé, la direction répond, le ministère répond. Et puis j'ai une équipe qui est extraordinaire, de médecins très dévoués, de paramédical et les restes. C'est des gens qui travaillent avec amour, et ils sont là tous les jours, et ils sont là au souci du malade. Voilà, je suis
professeur, dernière question. Dites-moi, comment se prépare la suite?
On craint un peu. Moi, j'ai peur qu'il y aura plus de malades et j'ai peur qu'on n'aura plus la force parce que l'épuisement commence à se faire sentir, surtout avec le mois de carême. Et j'ai peur qu'il y ait trop de malades encore. J'ai peur que ça évolue dans le temps aussi. On veut bien que ça s'arrête et on se repose un peu, qu'on prenne des vacances. Voilà, surtout ça. Mais j'espère
que ça va bien passer. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Professeur Nadjet Moufok, vous êtes chef de service infectiologie au CHU d'Oran. Merci infiniment, professeur. Oui.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Bonne journée et bon courage surtout à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Évidemment, professeur, à vous et vos collègues. Et surtout, je vous souhaite plein de courage à vous.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir. 12h56, c'est déjà la fin de cette émission dans le Grand Déballage. Merci à Tom à la réalisation. Les rendez-vous se poursuivent sur Beurre FM avec Kim tout à l'heure, 16-18. Ensuite, après, évidemment, Philippe avec l'imam Abdelali Mamoun. Prenez soin de vous. À demain avec autant de plaisir. Portez-vous bien.